On est en train de continuer la petite étude sur le livre de Jacques. Il y a dans ce livre-là, comme dans tous les livres de la Bible, si un jour on fait le tour et on étudie d'autres livres, on va s'apercevoir que la Bible est remplie, surtout le Nouveau Testament, remplie d'exhortations, d'enseignements, des choses bien expliquées par les apôtres. Puis il faut retransmettre ces enseignements-là parce que ça va nous faire de nous des disciples. Ça va faire de nous des personnes qui grandissent dans le Seigneur. La Bible, c'est plus que juste des paroles écrites dans un livre. C'est pas comme un livre normal. La Bible, c'est la parole de Dieu. Puis c'est une puissance pour sauver des âmes. Puis c'est une puissance pour nourrir notre foi, puis nous garder dans la foi, pour nous faire persévérer. Puis avec ça, c'est comme un miroir en même temps, la Bible. Quand tu regardes la Bible, tu apprends. T'es comme dans un miroir, puis c'est comme si tu revois le reflet de toi-même, puis Dieu te montre les choses qui doivent changer. Plus que tu t'approches de la Bible, plus que tu vois tes défauts. Plus que tu lis la Bible, plus tu vas apprendre à discerner tes défauts. Parce que des fois, on se pense correct. Mais c'est quand qu'on lit qu'on s'aperçoit que, wow, je suis loin d'être correct.
Ben oui.
C'est important de prendre du temps avec Dieu dans la prière et de lire la parole de Dieu pour la connaître. La parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça, c'est écrit dans le psaume 119. Fait que si c'est une lumière et une lampe, il faut l'allumer, la lampe. Faut pas en mettre en dessous de la table, faut en mettre sur le chandelier. Puis pour qu'elle m'illumine, il faut que je l'aille dans les yeux, puis il faut que je la lis ou l'écouter. Quand on vient à l'Église, on apprend des choses, puis on grandit dans le Seigneur. On grandit dans la connaissance, c'est la première chose. Le Seigneur, il change notre pensée, on grandit dans la connaissance, puis après ça, on a à cœur de mettre en pratique, puis c'est là qu'on prie, puis qu'on commence à changer. Si on commence pas par l'écouter, on peut pas savoir vers où s'en aller ou quoi faire. On a besoin de la connaître. Là, on commence par l'apprendre en écoutant, puis après ça, on réfléchit. Ça passe dans notre cœur. Oui, je veux mettre ça en pratique. Parfait. Seigneur, aide-moi à mettre ça en pratique. Ce soir, on va en voir d'autres points à mettre en pratique qui vont nous aider. On veut se trouver une place dans l'Église. On veut faire des choses pour Dieu. On va en voir quelques-unes. On est rendu encore dans le premier chapitre de Jacques, mais c'est le dernier verset. C'est le verset 27. On a vu la dernière fois qu'il dit, si quelqu'un se dit qu'il se croit religieux, mais sans être capable de tenir sa langue en bride, il dit la foi de cet homme, mais l'œuvre de cet homme est vaine. Ça sert à rien. Si tu dis que tu es chrétien consacré à Dieu, puis tu dis toutes sortes de folies, ton témoignage est détruit. Mais aujourd'hui, on voit comme une petite suite, parce que c'est l'autre verset par après. Le titre que j'ai donné à ce verset-là, « Servez Dieu dans les bonnes œuvres et la sanctification ». Vous allez voir pourquoi. On va voir qu'on est sauvé pour pratiquer des œuvres prédéfinies par Dieu. Il y a des choses spécifiques que Dieu s'attend à ce qu'on mette en pratique. C'est ce qu'on va voir ce soir. Il dit dans Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père » consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache, c'est la première partie de ce verset-là. Une religion pure et sans tache, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Premièrement, on a compris la semaine passée que le mot religion qu'il y a là, ça veut dire avoir la crainte de Dieu. Vouloir servir Dieu, vouloir marcher avec Dieu. Fait que quand on a donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus des hommes et des femmes religieuses. Pas dans le sens qu'on pratique une religion ou n'importe quelle religion. On suit la parole de Dieu. Veux pas, il y a un mode de vie qui commence, une mode de vie d'obéir à Dieu. Fait que d'obéir à Dieu, c'est d'obéir à quoi? Obéir aux enseignements qu'il nous donne, comme qu'est-ce qu'on va voir ce soir. Puis là, il dit, parce que la semaine passée, il y a deux semaines, on a dit, Si quelqu'un croit être religieux, mais sans tenir sa langue en bride, ça veut dire, si tu penses que tu es à la crainte de Dieu, puis tu es en train de servir Dieu, mais tu n'es pas capable de tenir ta langue en bride, mais la religion de cet homme est vaine, que ça nous dit. Mais ce soir, ça nous dit, la religion pure et sans tache, c'est ce qu'on regarde ce soir. Donc, il y a une possibilité que notre crainte de l'Éternel, notre vouloir de servir Dieu, soit pur et sans tache. Donc, ça peut arriver qu'il y a du monde qui sont religieux, entre parenthèses, entre guillemets, sont religieux, mais impurs et sales. Que leur vie est tout croche. Puis ils pensent être un homme en train de servir Dieu, mais ils ne marchent pas dans le chemin que Dieu demande. Donc, sa foi, sa religion, son mode de vie, ses croyances, ça sert à rien. C'est comme que je dirais pas, je prends pas personne plus spécifique un qu'un autre, mais comme qu'on était avant d'être chrétien, on se disait, on est des catholiques, mais on pratiquait pas notre religion catholique. Même si on portait le titre de catholique, on pratiquait pas la religion catholique. Donc, on était des gens irreligieux, notre religion était sale. On pouvait blasphémer, voler, mentir, faire adultère, on faisait n'importe quoi, c'était pas grave dans notre pensée. Donc, notre témoignage, il était zéro. De toute façon, là, je parle en exemple pour donner notre exemple à nous, comment est-ce qu'on était auparavant. Mais là, quand on a donné notre vie au Seigneur, on a un témoignage à donner, à briller, à être des lumières dans ce monde. Puis notre mode de vie doit être pur et sans tache, si on veut que notre témoignage soit véridique puis efficace. Si on veut qu'amener les gens au Seigneur, faut pas compter des jokes sales avec eux autres, puis de parler dans le dos des autres, puis pensant qu'ils vont venir au Seigneur parce qu'on les fait rire. Ça n'a aucun sens, cela. La religion pure et sans tache. Voulons-nous savoir qui est le mode de vie d'un chrétien? Un mode de vie d'un chrétien. Mais ça doit être une vie pure et sans tache. Une vie pure et sans tache. Si Jésus n'avait pas eu la vie pure et sans tache, il n'aurait pas pu nous racheter. Si Jésus n'aurait pas eu cette vie pure et sans tache, il n'aurait pas pu nous racheter. Il aurait eu besoin, lui aussi, d'un sauveur. Puis là, il nous a appelés, on a donné notre vie, puis on a dit, Seigneur, je veux te suivre. Jusqu'à quel niveau que le Seigneur nous demande d'être? Comme lui. Qu'on arrive à avoir une vie pure et sans tache. La vie pure, dans Louis Segond, ça veut dire pur, net, blanc. Pas de tache dessus, blanc, propre, pur, purifié par le feu, c'est aussi le sens du mot qui est là pour le mot pur, purifié par le feu, t'as enlevé tout ce qui est, par le feu, ça purifie, on le sait. Là, il y a d'autres manières de le voir, pur dans moralement, libéré des désirs corrompus, du péché, de la culpabilité, libre de tout mélange de ce qui est faux, être vraiment sincère, tout ça, c'est comme des synonymes de ce mot-là. Être vrai, authentique, c'est ça qui est important. On veut être un chrétien, mais on doit mener une vie pure et sans tache. Le mot sans tache, lui, Louis Segond, c'est sans souillure. Une tache, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un jour, on va étudier ça, quand on va parler de la sanctification, c'est de devenir pur. Sans tache. Les taches, c'est des souillures. T'as une tache, c'est une souillure. Ta vaisselle, il y a une tache, t'as une souillure. Un morceau de faut que tu le laves, t'enlèves la souillure. Mais notre vie, chaque fois qu'on paye, chaque fois qu'on désobéit à Dieu, on souille notre âme. Notre vie, notre témoignage, il est altéré. Notre témoignage, il est plus efficace. Il faut absolument garder un bon témoignage en se préservant des souilleurs du monde. Il y a des choses qui souillent dans ce monde. Si on ne sait pas c'est quoi qui souille encore, ben on en envoie ça. On en a déjà à l'idée des choses qui sont sales, dans les pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais agissements. c'est des souilleux qui souillent notre âme. Faut arriver à avoir un mode de vie, on dit une religion pure et sans tache, vivre d'une manière parfaite, c'est le but à atteindre, s'il faut devenir comme Jésus. La première chose qu'on doit comprendre, que notre purification, pour être pur, là, selon ce que la parole le demande, ça provient premièrement du sacrifice de Jésus. Sans Jésus, ça aurait été impossible de devenir pur, parce qu'on était déjà des sales, souillés. Notre âme était sale, souillée par nos péchés. Fait qu'en partant, s'il y a eu une possibilité qu'on devienne pur, c'est à cause que Jésus a tout accompli à la croix. Il est mort à la croix, il a versé son sang, puis il prenait les péchés de tout le monde sur lui. Il a expié les péchés de tout le monde. Puis là, maintenant, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Fait que si on a une possibilité de devenir pur aujourd'hui, c'est à cause que Jésus, il a payé le prix. Ça a coûté quelque chose. Il n'y a rien de gratuit. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, ça nous parle de Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Fait que si on est rendu purifié, ça veut dire si on est rendu pur, ça veut dire exempt de tâches. Exempt de souillure. Fait que si on l'a rendu exempt de nos péchés, c'est parce que Jésus a payé ce que ça coûtait pour nous purifier, nous rendre purs. Fait que si on va atteindre une vie sans tâche, une vie pure et sans tâche, faut premièrement tu passes par Jésus la première fois pour entrer dans ce chemin-là. Puis après ça, c'est encore le sacrifice de Jésus qui va te purifier. À tous les jours, chaque fois que tu commets un péché, tu demandes pardon, faut que tu le demandes pardon, puis là, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Il y a un autre beau verset dans 2 Corinthiens 11, 2 qui nous dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La parole de Dieu nous parle qu'un jour Dieu, il va faire une noce à son Fils. Il est en train de préparer la noce de son Fils. Jésus va effectivement se marier avec, présentement, il y a une fiancée. Cette fiancée-là, c'est nous. Qui a passé par Jésus. Puis ça nous dit dans ce passage-là que maintenant, on a été présenté à Christ comme étant une vierge pure. Pas parce qu'on était meilleur que les autres, à cause que Jésus a accompli ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être purifié. Maintenant, on peut s'approcher de Dieu comme une vierge pure. Maintenant, on est purifié par le sang de Jésus, puis on a même... Ça, c'est un au sens figuré. Retrouver notre virginité même, parce qu'on était comme des adultères devant Dieu. On se prosternait devant des faux dieux, devant des idoles, devant des statues, devant des crucifix, des images de Jésus. Dans d'autres pays, ils se prosternent devant des Baals ou des Dianes Astarté ou toutes les divinités qui se font. Mais nous autres, ici, au Québec, on était catholiques, puis on se prosternait devant des idoles, qui est aussi pire, c'est la même affaire, c'est contre un des 10 commandements. Fait qu'aux yeux de Dieu, on était toutes comme des prostituées. Puis là, à cause du sang de Jésus, on était lavés, puis on peut se présenter devant Dieu comme une vierge purifiée par Jésus. Puis là, maintenant, on marche devant Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste, puis là, il va vouloir nous expliquer jusqu'à où doit aller notre zèle pour être religieux dans cette nouvelle œuvre qui est l'œuvre de marcher dans la pureté puis dans la sainteté. Parce que on veut vivre notre religion, notre foi en Dieu, selon la pureté et la sainteté. Mais ça, devant Dieu, ce mode de vie-là, ça consiste en certaines choses qu'on doit rajouter à notre vie. C'est pas toujours un réflexe d'avoir cela, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Ce que je remarque, moi, c'est que là, il nous dit que la religion pure et sans tâche consiste. Pourquoi que si les gens ont passé à Jésus pour être pardonnés, que ça ne sera pas suffisant? On va dire, j'ai été lavé par le sang de Jésus, pourquoi je reste pas juste comme que je suis? Je suis un lavé. Ma religion devrait être pure et sans tâche. Si j'ai été lavé, faut pas oublier qu'on continue à avancer dans notre vie chrétienne. Puis on va se ressaler les pieds. Puis il faut se maintenir continuellement, être en train de demander pardon, puis de se laver les pieds pour être entièrement pur. Notre marche, dans notre marche, on se salit. Puis juste recevoir le salut, c'est pas suffisant. On n'a pas été sauvé pour rester assis sur une chaise. On a été sauvé dans le but de servir notre Dieu. On a été sauvé dans le but de mettre nos dons, nos talents au service de Dieu. Jusqu'à où ça va nous amener? Dans quel chemin ça va nous amener? Il ne faut pas oublier qu'on est présentement dans une course. On est en train de courir présentement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont essoufflés, mais on est en train de courir. Dans Philippiens 3:12, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, lui, Paul, il courait pour se sanctifier. Il courait pour devenir de plus en plus pur, de plus en plus saint. Il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il dit, je l'ai pas encore atteint d'être rendu parfait, parce qu'il visait de devenir parfait. Mais il dit, je l'ai pas encore atteint, mais je cours pour le devenir parfait. Est-ce qu'on est en train de courir pour devenir parfait? C'est important, frères et sœurs, qu'on soit dans cette course-là. Si on arrête de courir, on fait du surplace. Puis là, on est rendu tiède. Ben, on peut pas rester dans l'état où ce qu'on était. On ça déplaît à Dieu si on continue à pratiquer nos péchés. Faut être en train de courir puis vouloir s'en sortir. Marcher avec le Seigneur, demander au Seigneur qu'il vienne nous changer, lui demander pardon, puis là, notre vie va changer. Dans Tite, le chapitre 2, le verset 14, Jésus, ça nous dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité puis de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Voyez-vous, le plan de Dieu, ce n'est pas juste nous purifier. Des fois, on se dit, « Ouais, mais j'ai accepté Jésus. » Oui, c'est correct. Ça, c'est le départ. Tu n'as pas été racheté pour rester au point de départ. Tu as été racheté parce que Dieu veut se faire un peuple qui lui appartient, qui a été purifié, qui est rendu pur par le sang de Jésus. Mais il faut que tu deviennes zélé pour de bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire, être zélé pour de bonnes œuvres? Zélé, le zèle.
Travailler fort.
Se maintenir vigoureux. Mettre de notre énergie, toutes nos capacités, faire de tout ce qui est dans notre possible, être empressé, profiter de chaque occasion. Fait que être zélé, c'est être en mouvement, puis de vouloir aller de plus en plus de l'avant. Toi, t'avais-tu dit un autre point?
Ben?
Passionné.
Continuellement à l'œuvre, sans jamais s'arrêter,
c'est ça.
Ça veut dire que t'arrêtes pas.
C'est ça. C'est le contraire d'être paresseux. Ouais. D'être paresseux, t'es inerte, puis zélé, mais c'est le contraire. T'as plein d'énergie, puis d'enthousiasme, puis t'as l'excitation, t'as le zèle, puis tu t'empresses, tu fonces. Mais on était, regardez bien la phrase, Dieu veut se faire un peuple qui lui appartient, qui est purifié par lui, on est devenu pur, et zélé pour de bonnes œuvres. Fait que faut être empressé aux œuvres, aux bonnes œuvres, à faire le bien. Là, ça nous explique, encore toujours dans le verset 27 qu'on est en train d'étudier, « consiste, ben là, nous sommes, le verset dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste. Là, ça veut dire, être zélé, puis de marcher d'une manière pure, ça consiste, ça veut dire, il y a une direction à prendre. On va s'apercevoir qu'il faut visiter les veuves, les orphelins, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il est en train de donner une direction, Jacques. Il voulait pas que les chrétiens restent sur le neutre. Il dit, soyez zélés, donnez-vous à fond pour... Puis là, il dit, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Le mot affliction, ça veut dire tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité. Ceux qui vivent des temps difficiles, puis qui sont, là, en nommant les orphelins et les veuves, c'est des personnes seules, sans ressources. Parce que quand t'es pas veuve, ça veut dire que t'es marié, puis t'as quelqu'un qui est là pour t'aider, pour voir financièrement. Puis quand tu te retrouves tout seul, mais t'es sans ressources en temps normal. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas de rien, pas de bien-être social dans ce temps-là, il n'y avait rien. Il fallait que tu travailles pour manger. Si tu travaillais pas, c'est encore de même dans certains pays, si tu travailles pas une journée, tu manges pas. Faut que tu travailles. Tu n'as pas le choix. Puis si tu es un certain âge, quand tu es rendu veuve, ça sous-entend aussi des personnes âgées, mais tu es rendu sans ressources ou un orphelin, c'est un enfant qui a pas de parents qui s'occupent de lui. Il est tout seul dans la rue, puis il mendie. C'est ça qu'il sous-entend. Puis que les chrétiens, tu veux dire que tu as une religion pure et sans tâche, mais commence par t'occuper de ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui ont des besoins. Va aider ceux qui en ont besoin. Les orphelins et les veuves, c'est comme un exemple des plus pires nécessiteux. Ils n'ont aucune ressource. Mais tu vois du monde sans ressources, aide-les. Ça fait partie de la manifestation de l'amour de Dieu dans la vie des gens. C'est ce que j'ai commencé quand on a chanté le chant tantôt, pour dire que Dieu veut qu'on apprenne à s'aimer. Puis s'aimer, c'est en mettre en pratique de aider ceux qui n'ont besoin, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Faisons un effort avec zèle pour des bonnes œuvres, pour aider ceux qui sont dans le besoin. On doit viser une vie d'amour et de service envers notre prochain. C'est ça qui est notre but à viser. Ça consiste à, mais tu dois viser dans ce chemin-là. Ça consiste à prendre soin de ceux qui souffrent, mais tu dois commencer à regarder ça. Quand on se fait une banque de nourriture ici à l'église, ça soulage un petit peu, mais c'est rien encore pour soulager les gens qui nous entourent. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu. Chaque petit peu qu'on peut faire, on participe ensemble, puis comme s'appeler, appeler, ça encourage, ça donne, les personnes se sentent aimées, ils sentent qu'on investit dans leur vie, on va les visiter, on prie avec eux autres, ça l'aide, on essaie de les encourager dans le Seigneur. On organise des réunions, on fait des efforts pour mettre ça le plus beau possible, faire venir des invités. Notre église, il faut qu'elle soit recevante pour recevoir les gens, peu importe leurs conditions. Ils arrivent ici tout croche, mais au lieu qu'on les juge, on devra comprendre qu'ils viennent de sortir des griffes du diable. Là, ils rentrent ici là, pour avoir un secours, pour être délivré. Ils rentrent ici là pour qu'on puisse prier avec eux, qu'on puisse les encourager, qu'on puisse les aimer, qu'on puisse s'investir dans ces gens-là. Fait que c'est notre mission. On veut aider les gens, on veut démontrer notre amour pour eux. On va les chercher, puis on les invite. On leur dit, viens écouter un message qui va te faire du bien. Viens dans la louange, tu vois ça, que c'est le fun. On chante des chants au Seigneur, ça va te faire du bien. Viens, on va prier pour toi, ça va te faire du bien. Fait que l'Église est comme un hôpital pour accueillir ceux qui n'ont besoin. Fait qu'ensemble, on vit l'amour, puis on déverse l'amour à tous ces gens-là qui viennent, puis leur vie va changer, puis ils vont s'accrocher à Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On l'a-tu, cet amour-là? Si on voit quelqu'un arriver avec les cheveux drettes, tout sale, tout cotonné, tout teindu de différentes couleurs, puis habillé tout en guenille, puis la personne ne s'est pas lavée pendant un mois, ben elle pue. On va-tu être capable de l'accueillir? On va-tu être capable de dire que Jésus l'aime, puis qu'elle est à la bonne place, puis etc.? Puis peut-être dans un an, ça va être une personne habillée en habit, puis qu'elle va péter le feu, parce qu'elle va goûter l'amour de Dieu, puis ça l'a changé sa vie. Dans Tite 3.14, ça nous dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Ça nous dit, faut qu'on apprenne à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Des besoins pressants, c'est quand que c'est des besoins que ça presse, là. Ils n'ont de besoin là. Tu lui dis pas, oh, tu reviendras demain. Mais non, tu reviens pas demain. Il a faim là. Tu lui donnes à manger. S'il a besoin de quelque chose, c'est là. Des besoins pressants, faut être capable. Puis faut être prête pour ça. Faut être rempli de zèle pour les bonnes œuvres. Puis là, on sera pas sans produire de fruits si on est dans cette position-là. Fait qu'à chaque occasion qui va se présenter, on va sauter sur l'occasion, puis on va faire comme j'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit ça. Tu rencontres, t'arrives, t'es un lumière, puis un quêteux qui est là devant toi. Puis il dit, toi, t'es une bénédiction de Dieu pour moi, puis tu me donnes l'occasion de pouvoir me ramasser des fruits pour la vie éternelle. De considérer le quêteux comme une bénédiction pour toi, parce qu'il te donne l'occasion de pouvoir y donner quelque chose.
Amen.
C'est vrai. Puis là, tu y donnes, puis la personne, tu l'as béni, mais tu l'as fait parce que c'est Dieu qui l'a mis devant toi, puis là, tu vas avoir ta récompense un jour.
Amen.
Amen. 1 Jean 3, 16 à 18, ça nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » C'est beau, ça, là. On a connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Moi, je suis reconnaissant que Jésus ait donné sa vie pour moi. J'ai connu l'amour. Fait que l'amour, ça se voit, puis ça s'entend. Si on lit, on l'histoire de Jésus, son amour pour nous. Il a donné sa vie pour nous. On l'a connu, l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On a connu l'amour, il a donné sa vie pour nous. Mais nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est pas beau, ça? On veut vivre l'amour. Où est-ce que je vais la vivre, cet amour-là? Dans l'Assemblée, c'est la première place, la plus belle place, où ce qu'on a plein de personnes qui ont des besoins. Appelons-nous, visitons-nous, prions les uns pour les autres, exhortons-nous, aidons-nous, donnons des choses, donnons-nous des choses. Puis là, dans le même verset, en disant que nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères, il dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment cette personne-là peut dire qu'elle aime parce qu'elle a dit qu'elle a l'amour de Dieu en elle, puis elle n'est pas capable de donner à un frère qui est à côté d'elle dans le besoin? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Puis la suite, qui se trouve être la fin de ce verset-là, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les veuves, les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et la religion pure et sans tâche, elle a un « et » se préserver des souilleux du monde. Une religion pure et sans tâche, tu vas être dans l'amour puis aider les autres et tu vas te préserver des saletés de ce monde. Il y en a plein de sources de saletés aujourd'hui. Surtout à la télévision, on entend des vertes puis des pommes. Nous devons viser une vie pure. Pure, c'est pur de tout péché. Dans 2 Corinthiens 1:12, ça nous dit, je vais faire ça vite, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans ce monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point qu'une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » De se conduire dans la sainteté et la pureté devant Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul s'efforçait. Il vivait avec des chrétiens, puis il vivait avec des gens dans le monde aussi, de temps en temps, quand il évangélisait. Mais il dit, nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, dans la sainteté et la pureté devant Dieu. 2 Corinthiens 7:1, ça nous dit, faut pas oublier qu'on détient les plus grandes et les plus précieuses promesses données par Dieu. Mais à cause de toutes ces promesses-là, ça nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le travail de sanctifier nous revient à nous. C'est Dieu qui va le faire, mais c'est moi qui dois vouloir être sanctifié. Je dois travailler à ma sanctification. Il y a des choses, faut que je dise non. Je touche pas à ça, je vais me souiller. Je vais me salir. Je vais salir mes oreilles, je vais salir mes yeux. Je vais salir mes pensées. Il y a des affaires, faut pas que tu touches. Puis il faut que tu sois capable de dire non. Ça nous dit, sanctifions-nous. Le mot sanctifier veut dire se rendre saint, consacré à Dieu, marcher dans la pureté, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements. La Bible nous parle que la volonté de l'homme doit être alignée sur la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous demande de se purifier, mais je dois aligner ma pensée, dire « Oui, Seigneur, je veux me purifier. Je veux pas rien de souillé qui rentre dans mes pensées. » Dans Jacques 4:8, ça nous dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Il faut qu'on se lave les mains, puis qu'on se nettoie le cœur. Les mains, ça parle de l'extérieur de notre corps qu'il faut purifier, nos actions. Puis notre intérieur, c'est nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Il faut se purifier de ce qui n'est pas de Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu, il va s'approcher, mais nettoyez vos mains, puis purifiez vos cœurs. Un chrétien authentique, c'est un chrétien qui se purifie. 1 Jean 3:3, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voyez-vous, le chemin du Seigneur, c'est un chemin de la marche dans l'amour. Tu veux dire que tu marches dans la religion, d'une religion pure et sans tâche, mais tu vas être capable de marcher dans l'amour, prendre soin de ceux qui sont dans la souffrance, puis tu vas marcher dans sanctification. Tu vas te purifier. Tu vas te débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu, puis tu vas te laver, spirituellement parlant. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous encourage à faire un effort à se purifier, à ce qu'on soit saint, pur, irréprochable, comme tu l'as été toi-même. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas avoir juste une religion de notre bouche, mais à avoir une religion en action. Qu'on puisse apprendre à s'aimer les uns les autres, qu'on puisse apprendre à se servir les uns les autres, qu'on puisse apprendre à se sanctifier, à se purifier de tout péché, de toute souillure. Merci, Seigneur, de ta parole qui est puissante et qui nous donne une direction dans nos vies. Rends-nous à l'image de ton Fils Jésus. On remet nos ventres entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.